métaphysique d'Aristote par le père Philippe Saint-Joseph le 30 janvier 85.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois? Oui.
La démonstration de la dernière fois pour ce qui est de la compréhension, dans l'ordre de la compréhension, l'être va plus loin dans la compréhension que la fluidité. Et pour dire ça, votre démonstration repose sur le fait que le qui est-il d'être, c'est la même chose que le qui est-il de la substance. Et vous n'avez pas tellement redit comment on arrivait à dire que le qui est-il d'être, c'est la même chose que le qui est-il de la substance. Or, tout repose là-dessus.
Et ceci en fonction même de la vie.
La présupposée des catégories, comme tu vois, que les catégories sont comme une propédeutique qui est antérieure à la philosophie première et antérieure à toute la philosophie. Or, dans cette propédeutique, vous avez de fait la substance seconde attribuée à la substance première. C'est, tout se ramène, selon un ordre, à la substance première. Et donc, sous ce point de vue-là, l'intelligibilité de la substance première revient à l'unité de l'être. Donc, au plan critique, si vous voulez, pour bien saisir ça, il faudrait comprendre que le legeta de Polako, ce qui est dit de multiples manières, implique un ordre et que tout est dit être par rapport à la substance. Et que c'est par rapport à la substance que la quantité est d'être, la qualité est d'être, la relation est d'être. Pas par eux-mêmes. Ils ont une intégrité propre, mais ils n'ont pas un être propre. Mais ce serait ça qu'on pourrait saisir. Hein. Vous allez tout de suite comprendre. Pierre, parce que c'est toujours Pierre qui fait l'unité. Hein. Alors, Pierre est un homme. Pierre est intelligent. Pierre est vertueux. Ainsi de suite. Homme, intelligent, vertueux, leur intelligibilité propre. Ce qu'est l'homme n'est pas ce qu'est être intelligent, n'est pas ce qu'est être vertueux. Leur intégrité et leur être s'identifie Pierre. L'être de homme est en Pierre. L'être d'intelligent est en Pierre. L'être vertu est en Pierre. Le jugement d'existence de homme est inséparable de Pierre. Le jugement d'existence de intelligent est inséparable de Pierre. Tandis que l'intelligibilité de Pierre, l'intelligibilité de homme, peut-être séparer Pierre. Elle prend. Alors, c'est pour ça que le jugement d'existence, ceci est, fait l'unité. Et homme n'a pas d'être par lui-même. Il n'existe pas. C'est la différence de l'homme en soi, chez Platon. C'est la différence de l'intelligence en soi, chez Platon. Platon ne pourrait pas dire ça, parce que chez Platon, il y a identification entre l'appréhension et le jugement. Tandis que pour Aristote, il y a distinction de l'acuité, du totium analis. Divers. L'acuité de homme, l'acuité d'intelligent, l'acuité de vertueux sont diverses. Mais tout s'identifie en Pierre. Le tot anthropo analis. Le taux noesis einam. L'être à l'homme, l'être à l'intelligent, l'être ou à la vertu, c'est Pierre. Pierre seul existe. Donc, au niveau de l'être, tout se ramène à la substance première, Pierre. Donc, le tiesti de la substance et le tiesti de l'être, c'est la même chose.
Donc, cours de métaphysique, vous avez parlé souvent de l'être de la relation, par exemple.
L'être de la relation, non, il y a deux choses. Hein. On essaie de comprendre, il y a deux aspects. Qu'est-ce que c'est que la relation ? Qui est-il ? Puis, la relation par rapport à la substance. Le ton einheim de la relation, c'est par rapport à la substance. Et au contraire, qu'est-ce que c'est que la relation ? C'est la communauté. Donc, il y a toujours la double interrogation. Qu'est-ce que c'est le ton qui est einheim ? Le tout y a une aïna, mettez la relation. Le tout y a une aïna de la relation. Et l'être de la relation par rapport à Pierre. La relation n'a pas d'être en soi. Mais la relation a une cuité en soi. Donc c'est ça qu'il faut saisir. La relation a sa propre cuité, comme la vertu a sa propre cuité. Mais l'être de la vertu, l'être de la relation, c'est l'être de Pierre. Ils sont dans un état de mendicité du côté de l'être. Ils sont dans un état d'autonomie du côté de leur cuidité. Du côté de leur cuidité, ils ont leur cuidité propre. Ils ont leur intelligence propre, l'intelligence de la relation, l'intelligence de la vertu. Mais au point de vue de leur être, ils sont dans un état de mendicité parce qu'ils mendient leur être. Seule la substance première existe. Donc, c'est là où on voit très bien le double jugement. Et ça, c'est les catégories. Fallait trouver cette chose très très jolie, n'est-ce pas ? Que ici, on est en face d'un ordre vers un premier. Et ce premier, c'est la substance première qui mesure du côté de l'être tous les autres, tout en respectant leur originalité.
Parce que parler de la qualité d'une relation, par exemple, ça c'est dangereux.
La qualité d'une relation, il n'y a pas de qualité d'une relation.
Parce qu'on le dit assez facilement.
Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas philosophique.
Oui, mais
c'est dans le langage habituel. Dans le langage habituel, parce que. Vous hypostasiez la relation. Quand Médon Sel, d'heureuse mémoire, n'est-ce pas ? J'étais professeur, j'étais un homme charmant à Strasbourg. Quand Médon Sel disait la personne, c'est une relation, une communication. Hypostasie. La relation devenait, oui, au fond, ça c'est conséquence de Hamelin, conséquence du néo-hégélianisme. Vous faites de la relation une postase. Alors à ce moment-là, vous pouvez parler d'une vertu, d'une qualité de relation. Je suis médecin du monde. C'est une autre relation. Oui, c'est la relation qui prend la vie, qui remplace la personne. C'est constamment comme ça. Les gens vivent de leur relation, ils ne vivent pas leur substance. Il n'y a que les contemplatifs qui vivent de leur substance. Parce qu'alors là, ils comprennent que le point de vue de la substance, c'est quelque chose qui a une autonomie, et cette autonomie appelle Dieu. Mais c'est ça le point de vue très. Et c'est très astucieux d'avoir fait ça. La diversité. La diversité au niveau de l'intelligibilité et l'unité dans notre être. C'est ça le catégorie. Alors on peut faire une diversité dans l'ordre de la vie, une idée dans l'ordre de la vie. Ce qui montre tout de suite que l'être a une profondeur unique. Puisque l'être unifie cette diversité. Pour unifier cette diversité, il faut être beaucoup plus profond, il faut être beaucoup plus radical. Vous ne pouvez pas unifier une diversité si vous n'êtes pas beaucoup plus radical que cette diversité. Tout se rapporte à Pierre et Pierre n'est attribué à aucun. Donc Pierre a son autonomie de sujet, de substance première.
Il y a son propre
existence. acquiert à son autonomie dans l'ordre de l'exister. Ceci est. Ah, autre chose, ma manière dont je saisis Pierre, j'ai commencé par saisir que Pierre était intelligent, qu'il n'était pas dans le gorille. L'article sur le gorille qui commence à parler, tu vois. Il a parlé. C'est sensationnel que l'article. Il a parlé. Il a parlé du langage des sourds muets. C'est merveilleux. C'est trouvé ça. Ah, tout sensationnel. Le gorille a parlé. Oui, il a parlé. Le langage des sourds muets. Alors, on comprend tout de suite. Je connais Pierre par intelligence. J'ai parlé avec lui. Alors, je connais Pierre par ses vertus. Mais c'est lui que je connais. Alors, c'est par l'intermédiaire de l'acuité que je connais Pierre. Mais faisons attention, ceci, c'est toujours les rapports du jugement et la préaction. Tout le temps, on y revient. Qu'est-ce qui est premier ? Le jugement ou la préhension? Alors, c'est très très intéressant parce que c'est capital, ça, je crois. La préhension et le jugement. Le jugement des sens, ceci. Qu'est-ce qui est premier? La préhension, homme. Un homme. Qu'est-ce qui est premier? La préhension ou le jugement? La scolastique a hypostasié l'appréhension pour faire que l'appréhension était première. D'où le très gros problème, comment puis-je à partir de l'universel rejoindre le singulier? C'était un des problèmes scolastiques classiques. Comment de l'après de l'universel? Je connais en premier lieu l'universel. Comment rejoindre le singulier? Parce que le singulier n'est pas dans l'universel. Alors comment de l'universel rejoindre le singulier? Si je pars du singulier, c'est très simple. L'universel est dans le singulier. Et c'est l'universel que je connais en premier lieu. Avant de dire chat, j'ai connu tel petit chat particulier. Avant de dire chat. Avant de dire homme, j'ai connu papa. Et j'ai universalisé papa pour tous les hommes. J'ai d'abord connu un homme particulier. Ceci est. Il faut renverser la vapeur. C'est que le jugement d'existence est premier génétiquement, mais il implique en effet la préhension, dont vous n'avez pas conscience. Alors moi je crois que c'est ça toute astuce, c'est de comprendre que la préhension, elle est bien incluse dans le jugement d'existence, c'est très vrai. Donc d'une certaine manière, c'est vrai de dire que la préhension est antérieure, comme un élément. L'élément est antérieur au mixte, mais l'élément n'existe que dans le mixte. Alors on peut inverser, on peut se battre là-dessus en disant je connais d'abord Pierre, mais parce que je connais Pierre, je connais homme, mais homme je le connais de façon très particulière puisque je le connais sur un mode universel, donc c'est beaucoup plus intelligent que Pierre. Homme est bien plus intelligent que Pierre, c'est pas ça. C'est toujours ça.
On ne peut pas dire donc qu'on a une intelligibilité de l'homme, mais on n'a pas d'intelligibilité de la substance première.
On a une intelligibilité. Ben c'est là, autrement, vous trouvez dans le nous-mêmes. Autrement, c'est le nous-mêmes de Kant. Hein. Vous voyez, comme Kant est toujours présent en nous. L'autre jour, c'était Benjamin, maintenant c'est il y a une contagion, une contamination, pas Kant qui s'infiltre comme ça. L'intelligibilité homme, intelligible. Pierre nous mène, c'est nous mène ça, pour Kant. La réalité, je la connais pas. Je la connais. Puisque je connais homme, je connais Pierre.
Oui, mais cette intelligibilité que j'ai de Pierre, c'est seulement dans un jugement.
L'intelligibilité de Pierre, ah oui, ceci est. Pierre existe.
Et c'est une...
Pierre existe, je lui ai donné la main, et c'est pas un martien. Il existe, il est.
Et c'est comme, c'est une intelligibilité, même si c'est seulement dans un jugement.
Ah oui, le jugement implique une intelligibilité. Puisque le jugement assume l'appréhension. L'appréhension est présente dans le jugement, donc il y a une intelligibilité dans le jugement. Mais dans le jugement, il y a une intelligibilité autre que celle de l'appréhension. Il y a une intelligibilité très difficile à préciser, c'est cette fameuse intelligibilité du jugement qui atteint l'être, au-delà des catégories. À travers les catégories. À travers les catégories et au-delà des catégories. C'est à l'intérieur des catégories, des 10 catégories, donc à l'intérieur des du Totien et l'âme, que je saisis le jugement. Que je saisis ceci. Autrement, c'est nous-mêmes. Alors, je connais ça, vous voyez. Et c'est au fond Kant, et c'est Heidegger d'une certaine manière. Parce que Heidegger coupe complètement les étangs de l'être. L'être et le nous-mêmes, vous voyez, des étangs. Les étangs, la science les étudie, ça n'a pas d'intérêt. C'est l'être qui est intéressant. Je pense l'être. Alors, Heidegger retombe sur ses pieds en disant « je pense l'être ». L'intelligibilité de l'être n'est pas donnée par la réalité physique des étangs, mais donnée par l'intelligence. Donc vous retrouvez Kant. C'est en sens ça que Heidegger n'a pas dépassé Kant. C'est pas commode de dépasser Kant. C'est pas commode, hein. Il commence à le dépasser. Il commence à dépasser Kant pour comprendre que le jugement d'existence est donné premièrement. S'il n'est pas donné en premier lieu, je ne le retrouverai jamais. Et c'est la scolastique. C'est un des problèmes de la scolastique. C'était un des problèmes sur lesquels la scolastique se heurtait tout le temps, en disant l'appréhension est première. Donc la première chose que je connais, c'est l'universel. C'est tout à fait faux. Vous ne connaissez pas du tout l'universel en premier lieu. L'universel présuppose des quantités de reconnaissance. Le gosse dans son berceau ne connaît pas l'universel. Non, c'est comme une touche. Génétiquement, c'est le jugement d'existence qui est premier.
Oui. Et alors, ça te m'a dit que nous ne pouvons pas connaître le singulier directement, mais à travers le sens. Alors, est-ce que les sensibles, on les connaît par les sensations?
Les sensibles, par les sensations. Vous allez retomber là, c'est pas le truc comme ça. Vous êtes ingénieux, on retrouve tout le temps les mêmes problèmes. Tu vois, c'est forcé. En cas de vie, le réel, je le connais par les sensibles. Or, les sensibles ne connaissent que les qualités, donc je ne connais pas l'être, donc ça va se faire. Votre intelligence est présente dans votre toucher. Quand vous touchez, l'intelligence est présente. L'intelligence ne fait pas nombre avec les sensations. C'est ça qu'on oublie. On projette sur l'intelligence une séparation, alors que mon intelligence est présente dans mes sensations. Quand je touche quelque chose, je fais plus que toucher, parce que j'ai dit ceci. Alors c'est l'intelligence seule qui peut dire ceci. Mais ceci est à travers cette sensation particulière. Donc je ne peux pas me couper des sensations, mais je vais au-delà des sensations.
Oui. Alors, il est supposé, alors, pour que l'intelligence connaisse à travers les sensations, il est supposé l'appréhension.
L'appréhension est tout le temps éliminée. Mais le premier moment de l'appréhension, alors Saint Thomas dit autorité. Saint Thomas dit que le premier moment de la création, c'est toucher un tout vagum, un tout confus. C'est le tout confus. La première appréhension, c'est un tout confus. Un brouillard. Premier moment d'appréhension, vous touchez une détermination. Puis petit à petit, vous arrivez à animal. Puis vous arrivez à homme. C'est déjà très élaboré. Au début, qu'est-ce que vous voyez? Un chat.
De l'âme séparée.
Alors, ça, c'est difficile, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience.
Il semble que. Alors, si l'intelligence ne peut pas connaître directement les singuliers, alors, théoriquement, s'il n'y avait pas d'intervention divine, l'intelligence oublierait complètement le singulier. L'âme séparée, il n'aurait pas avoir connaissance des sables. Par exemple, il n'aurait pas avoir connaissance des pierres une fois qu'il est séparé du
corps. Ah, c'est la même chose. Oui. On est en théologie pour savoir qu'est-ce qu'une âme séparée connaît encore. Quand vous serez une âme séparée, est-ce que vous connaîtrez encore vos frères? Très très loin de cette question-là. Moi, je suis en théologie, parce que je peux parler d'une âme séparée qu'en théologie, je peux en parler en philosophie, oui, c'est sûr, parce que je peux dire qu'en philosophie, l'âme ne meurt pas, donc il y aura une âme séparée. Quelle sera la connaissance de l'âme séparée? Ce sera sûrement par la mémoire. Grâce à la charité fraternelle, vous continuerez à connaître vos frères tranquillement. Grâce à la charité. Parce que vous n'aurez pas une nouvelle connaissance. Mais vous les connaîtrez. C'est possible autrement.
Mais les singuliers seront dans la mémoire.
Ah ben je comprends. La charité. L'amour touche aux singuliers. Alors vous n'avez plus aucun exercice d'amour en tant qu'âme séparée. L'âme séparée nécessairement continue d'aimer. Il y a la charité. Et la charité implique la charité fraternelle. Et la charité fraternelle, c'est pas l'homme que vous aimez. C'est pas le frère que vous aimez. Tel frère qui existe.
Oui. Mais alors il me semble que Saint Thomas dit que c'est plutôt par un influx des espèces intelligibles des singuliers que Dieu lui-même donne à l'âme, mais que la mémoire ne peut pas avoir. Il ne peut pas y avoir de mémoire des singuliers.
Vous avez pas souvent.
Il me semble ça.
Quoi? Évidemment, il n'y a plus d'imagination. Donc, il n'y a plus de fantasme. Il y a la charité. Comment l'exercice de la charité peut-il se faire sans une connaissance du singulier? Alors, vous diriez que dans les âmes qui parlent, il n'y a plus d'exercice de la charité. Tant mieux. Là, je vous coince. Au-delà de Saint-Thomas. Comment pouvez-vous dire qu'une âme séparée continue d'aimer? C'est bien comme ça. Elle n'est pas séparée de charité. La charité implique la charité fraternelle. La charité fraternelle se termine à l'aimer. Alors que ce ne soit pas tout à fait la même chose qu'ici-bas, ça sûrement. Mais comment ça se passe? Très difficile de savoir. C'est une conversation avec les âmes séparées. Comment les âmes séparées comprennent.
continue de me connaître. C'est très difficile. Je suis persuadé qu'elle continue. Je suis persuadé qu'une connaissance individuelle qu'elle a. Par la charité, par l'amour, connaissance affective. Mais il n'y a sans doute pas, vous voyez, de connaissance de l'univers, ça, de l'univers. Parce que ça, la charité l'aime de façon globale à l'homme qui chante. Comment une âme séparée aime-t-elle le petit chat? Le petit minou, le petit minou qu'on a laissé sur la terre. Comment l'âme séparée continue-t-elle de l'aimer? Le petit minou, je crois qu'il est très loin. Tandis que Pierre, Jacques, Jean. Bon, alors, allons-y. Maintenant, chapitre 5. Mais il y a une difficulté. C'est pas étonnant. Ekei de aporian, apori, aporian. Mais il y a une difficulté si l'on déclare que n'est pas définition la notion provenant d'une addition. Donc nous sommes toujours dans la question de la quidité, et la quidité, vous comprenez, c'est ce qui peut être défini. C'est la définition par rapport à ce qui peut être défini, l'intelligibilité. Si l'on déclare que n'est pas définition la notion provenant d'une addition, quand vous dites Pierre est intelligent, peut-on définir Pierre est intelligent? Peut-on définir Pierre a des cheveux roux? Est-ce que ça peut définir? C'est une addition. Pas définir, et pas de définition d'une chose complexe. De quoi sera faite une définition de chose n'étant pas simple, mais constituée de l'union de deux éléments? Il est en effet nécessaire de manifester ce qui résulte d'une addition. Je prends pour exemple le nez et la concavité. Ça, c'est le fameux exemple constant d'Aristote que j'avais oublié. Le nez et la concavité. Vous comprenez qu'est-ce que c'est que le nez concave, hein? Et le canut qui se dit à partir des deux premiers. L'un étant dans l'autre. C'est-à-dire la concavité étant dans le nez. Alors, vous avez le canut. Ne confondez pas le canut et le nez canut. Ce n'est certes pas par accident, du moins, que la concavité et le canut sont propriétés du nez, mais bien par soi. Là, il y a un cas de tout. Donc, il y a une perceité, un lien de nécessité entre la concavité et le nez qui fait qu'on est en face du canut. Le cas de toutes les propriétés. Et il n'en est pas comme du blanc pour Callias ou pour homme. Parce que Callias blanc est celui pour qui l'être homme est attribué par accident. À la blancheur est attribué par accident homme. À la blancheur est attribué par accident le mur. Il en est comme du mal pour l'animal. Ça devient plus délicat. Et ça, c'est la question du sexe par rapport à l'homme. Est-ce que c'est accidentel? Et dans quel cas c'est accidentel? Il en est comme du mal pour l'animal, l'égal pour la quantité, et comme de toutes ces choses que l'on dit être attribuées par soi. Donc, second catoto. Quelle autre la propriété? Ce sont celles dans lesquelles se trouve ou la notion ou le nom de la chose dont chacune d'elles est la propriété et qu'il n'est pas possible de manifester à part. Ainsi, le blanc est possible sans l'homme, mais non pas la femelle sans l'animal. En sorte que en sorte que de l'acuité et de la définition de ces choses, ou bien il y en aura aucune, ou bien il y en aura, ce sera d'une autre manière, comme nous l'avons dit précédemment. Tour de tour, peut-on avoir une définition d'une notion avec sa propriété? Mais au fond, c'est essayer de voir la différence par rapport à la définition. Qu'est-ce qu'inclut la définition? La définition vient de Tautienayang. Le Tautienayang du premier kateto, la perséité, premier, deuxième perséité, et puis l'accident. L'accident, c'est ce qui s'ajoute. Est-ce que la propriété s'ajoute? C'est toute la question. Ça qui tourne autour. Ça n'a pas un intérêt énorme, c'est un peu des discussions grecques, ça. Mais c'est face aux sophistes. Les sophistes confondaient complètement le point de vue de l'accident et de la propriété. Alors, c'est intéressant pour Aristote parce que la propriété fait partie de la connaissance scientifique. Alors que l'accident ne fait pas partie de la connaissance scientifique. L'accident n'a rien à voir, ne me donne aucune intelligibilité par rapport à la chose. Tandis que la propriété, oui. Alors, est-ce que la propriété peut être objet de définition? Ou est-ce que la propriété n'est pas objet de définition? Première difficulté, premier a priori. Mais il y aura une autre difficulté, encore en ce qui concerne ces mêmes choses. Et on tourne un peu autour. Tout ça sont les problèmes autour du Tautienayang. C'est intéressant au point de vue de l'intelligibilité de la chose, tout simplement. C'est ça l'intérêt. Et toujours par rapport à l'exister. En effet, s'ils sont identiques, né Camus et né Concave. Le Camus et le Concave seront identiques. Mais s'il n'en est pas ainsi, puisqu'il est impossible de parler du Camus indépendamment de la chose dont il est une propriété par soi, le Camus en effet est une concavité dans le nez. Alors, ou bien il n'est pas possible de parler de né Camus, ou bien ce sera dire deux fois la même chose. Né concave. Il faut s'amuser avec les Grecs. Et ça, c'est l'amusement des détails. De langage. Quand vous dites Camus, qu'est-ce que vous voulez dire? Et quand vous dites né concave, est-ce que c'est né Camus? Et quand vous dites né Camus, est-ce que c'est la même chose que né concave? En effet, le né concave sera le né Camus. C'est donc une absurdité que d'appliquer à ces choses l'acuité, autrement on irait à l'infini. Car dans né Camus, il y aurait encore un autre né. Amusez-vous. On est très loin de la gravité de la substance. Il faut bien que les Grecs s'amusent de temps en temps. Ça fait partie, ça, des points de vue grecs. C'est très astucieux. C'est très astucieux. C'est pas bête du tout, ça. Ça, c'est pas mal du tout, c'est très intelligent. C'est très intelligent dans le sens de montrer, vous voyez, que le langage comme tel est en référence avec la réalité. Autrement, vous pouvez l'infini. Et enfin, c'est ça que ça veut dire. Le langage livré lui-même vers l'infini. Il est donc évident qu'il n'y a pas de définition, qu'il n'y a de définition que de la substance. Voilà ce qu'il faut dire. Seule la substance peut être objet de définition. Dès que vous êtes en dehors de la substance, vous ne pouvez plus définir. Pourquoi? Parce que vous êtes en dehors de quelque chose de simple. Or, la définition regarde quelque chose de simple. En effet, s'il y a aussi une définition des autres catégories, il est nécessaire que ce soit par addition. Si vous définissez intelligent, vous définissez Pierre d'intelligent, ou l'intelligence de Pierre. Si vous définissez blanc, vous dites blanc du mur. C'est toute la question ici. Où se trouve la définition? Est-ce qu'on peut définir un accident ou est-ce que seule la substance peut être définie? Autrement dit, vous voyez l'intérêt de la chose, hein, c'est de montrer que seule la substance possède en premier lieu totienaina, une quidité. Toutes les autres possèdent une quidité que d'une façon seconde et pas d'une façon première. Et donc, on ne peut définir que la substance. Il est donc évident qu'il n'y a de définition que de la substance. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est là-dedans. Il y a donc, il est évident qu'il n'y a de définition que de la substance. En effet, s'il y a aussi définition des autres catégories, il est nécessaire que ce soit par une addition. Car le cas, par exemple, de l'impair, qui en effet n'est pas défini sans le nombre, de même que la femelle sans l'animal, je parle de par addition, dans les cas où l'on est amené à dire deux fois la même chose, comme dans les exemples que nous prenions, Néné Camus. De plus, si cela est vrai, il n'y aura pas non plus définition des choses comprenant deux éléments, par exemple du nombre impair. Vous ne pouvez pas définir le nombre impair. Vous pouvez définir le nombre, mais pas le nombre impair. Parce que dans un pair est impliqué nombre. Donc il y a addition. Mais cela passe inaperçu parce que ces notions ne sont pas formulées avec précision. Vous pouvez définir animal, vous ne pouvez pas définir femelle. Parce que dans femelle, c'est impliqué animal. À supposer, c'est très astucieux parce que tous les sophismes se font grave. Les sophismes se font à partir des noms qui contiennent une autre signification que le nom. Le nom est simple, mais en réalité, le nom n'est pas simple. Quand vous dites femelle, le nom n'est pas simple. Il n'y a plus qu'animal. Quand vous dites mâle, le nom n'est pas simple. Il n'y a plus qu'animal. Donc c'est plus simple. Il y a la propriété et le nom par derrière. Et un père, c'est la même chose. Un père aussi. Mais cela passe inaperçu parce que ces notions ne sont pas formulées avec précision. À supposer qu'il y ait aussi des définitions de ces choses, ou bien elles seront d'un autre type, ou bien si cela a été dit, il faudra que la définition de la quidité soit dite de plusieurs façons. En sorte qu'en un sens, il y aura de définition et de quidité de rien d'autre que ces substances, mais en un autre sens, il y en aura des autres choses. Comme il est normand. Oui et non. C'est très vrai, vous ne définissez que la substance, mais il y aura aussi des définitions d'autre chose. Ainsi donc, que la définition soit la notion de la quidité. Alors vous voyez, que la définition soit la notion de la quidité, et qu'il n'y ait de quidité que des seules substances, ou d'une façon tout à fait première et absolue des substances, cela est bien évident. Voilà ce qu'il fallait vous dire. Vous voyez l'histoire. C'est assez joli et assez simple. C'est assez simple. Une fois qu'on a compris ce que c'est que les prédicaments, vous comprenez que la quidité n'est parfaitement quidité que de la substance. Pourquoi? Parce que tous les autres accidents, je ne peux avoir de quidité au sens premier que d'homme. Seul l'homme qui est dans la substance première, Pierre, est vraiment une quidité, au sens premier. Parce que toutes les autres sont relatifs à Pierre, donc relatifs à homme. Intelligent, rationnel. Rationnel implique homme. Donc je ne peux pas définir rationnel sans impliquer homme. Donc ce n'est pas absolument sain, c'est relatif à autre chose. Si c'est relatif à autre chose, on ne peut pas le définir, il n'a pas de quidité au sens absolu. Alors, c'est la fameuse chose qu'on dira, et c'est toujours intéressant à se rappeler ça, c'est que lorsqu'il s'agit, je prends l'exemple de blanc. Saint Thomas prendra avec beaucoup de netteté, mais tout à fait dans la suite de ce que dit Aristote. Blanc. Puis-je définir blanc? Puis-je définir blanc? Je peux définir blanc en passant à l'abstrait, blancheur. Et c'est ce qui fait comprendre pourquoi il y a l'abstrait. Il faut
se demander pourquoi il y a l'abstrait, pourquoi de fait blanc ne suffit pas et qu'on est obligé de passer par blancheur. Une drôle de maladie. C'est très curieux, pourquoi on passe par blancheur? Et c'est intéressant de poser la question, puisqu'au fond, la cérébralisation, comme diront les psychologues, viendra du fait qu'on est dans blancheur. Et on commence à cérébraliser, c'est-à-dire à perdre contact avec le réel, quand on spécule sur blancheur. Spéculer toute la journée sur blancheur, au bout d'un certain temps, on n'aurait plus les pieds sur terre. Le déraillement psychologique, hein, ça arrive quand on commence. Le déraillement psychologique, c'est qu'on oublie blanc et on garde blancheur. Le déraillement psychologique libre, liberté. La philosophie ne peut être dérapée quand elle n'a pas regardé uniquement la liberté. Et je cérébralise. Parce que vous n'avez aucune expérience de la liberté. Vous n'avez aucune expérience de blancheur. Donc, à ce moment-là, vous restez dans un abstrait universel. Et vous commencez à cérébraliser. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes en face du blanc, ah, vous avez l'expérience, le blanc du mur. L'acte libre. Libre est lié à l'acte. Et le blanc est lié au mur, au plancher, ou à la figure, ou à l'œil. Il est lié à autre chose, vous voyez, toujours. Donc, si j'essaie de penser la cuidité de blanc, vous comprenez que blanc n'a pas de cuidité au sens premier, puisqu'il est lié à autre chose. Donc il est relatif à autre chose. Donc il ne peut pas se définir par lui-même. Il ne se définit que par l'abstrait. Mais quand vous définissez blancheur, qu'est-ce que vous définissez blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. Dans la définition de blancheur, dans la définition de blancheur est impliqué blanc. Et dans la définition de blanc est impliqué nul. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de cuidité propre. Quand vous voulez savoir ce que c'est que la liberté c'est ce par quoi l'acte libre est libre. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Vous voyez, ça c'est très très important de comprendre ça. C'est ça qui assainit le terrain. On fait ce que les moines ont fait, tu vois, quand il y avait du paludisme, les dombes, hein, du paludisme. Ils ont assaini le terrain. Le terrain est devenu sain. Eh bien, notre intelligence, elle a des fièvres paludiennes aujourd'hui. Alors, il faut que le terrain devienne sain. Et pour ça, on revient au concret. À la place de spéculer sur blancheur, vous spéculez sur blanc. C'est-à-dire qu'on ne spécule plus. À la place de spéculer sur liberté, vous regardez libre. Et vous revenez à quelque chose de précis. Oui. Et c'est ça qu'Aristote souligne. C'est ça qui est très intéressant. C'est que vous ne pouvez pas avoir de définition des catégories. Et on voudrait l'avoir. Et vous ne l'avez qu'au niveau abstrait. Vous faites de quelque chose de second, quelque chose de premier, en passant du concret à l'abstrait. Et vous oubliez que vous faites ça par un procédé abstractif. Et vous regardez blancheur, ou vous regardez liberté, comme quelque chose que vous pouvez toucher, comme s'il y avait une cuidité de liberté, comme s'il y avait une cuidité de blancheur, par soi. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant ce point de vue-là, ce petit passage-là. Il est capital parce que c'est ça la santé de l'intelligence. On est très loin de cette santé de l'intelligence parce que nous déraillons tout le temps, nous perdons des balles. Les intellectuels perdent pédale, ils cérébralisent, Et il cérébralise sans le savoir, terrain glissant. Parce que blanc, blancheur, c'est la même chose. Ah, pas du tout. Il n'y a pas de cuidité de blancheur, puisque blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Blanc, blanc du mur. Blanc de pierre. Blanc de blanc. Et vous arrivez comme ça à quelque chose infiniment déclinable. Bon. Réfléchissez là-dessus, c'est très intéressant, c'est un petit appendice, c'est un petit appendice. Aristote donne ça comme un petit appendice. Côté. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.